Alors aujourd'hui, je vous invite à un mariage. Pas le mien. Ça fait 37 ans que c'est fait. 37 ans de mariage le mois prochain. Comme le temps passe vite. Non, ça va ? Comme le temps passe vite. Là, c'est un mariage. C'est un mariage qui est expliqué. C'est une petite histoire que raconte Jésus dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Matthieu. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas comment vous prenez, vous, les invitations de mariage. Vous recevez parfois des invitations de mariage de main en main. Les futurs mariés viennent vous rendre visite. Ou alors vous recevez la petite enveloppe à la maison. Et je ne sais pas comment vous faites, vous, mais il y a plusieurs façons de répondre à une invitation. En tout cas, d'en tenir compte. Moi, je sais que je suis plutôt du style... Je le pose sur le meuble, on a un petit meuble là en face, à côté du canapé. Je le pose là, et puis Marie s'en occupera. C'est plutôt comme ça. Je délègue beaucoup ce genre de choses. Marie s'en occupera. Et puis il y en a d'autres qui ouvrent tout de suite l'enveloppe. Ça, c'est mon épouse. Elle ouvre tout de suite l'enveloppe, et puis elle dit « Chouette, on va au mariage ». Elle est très contente. Puis d'autres... ils ouvrent et puis ils font encore un mariage. Et ça existe. Ou d'autres disent, ouais, je les connais un petit peu, j'ai reçu l'invitation, mais bon, je ne sais pas si je vais y aller. Donc en fonction de la manière dont vous prenez, vous recevez cette enveloppe, votre capacité à aller à ces noces et la disposition de votre cœur à aller à ces noces va changer. Avez-vous remarqué cela ? Si vous êtes motivé à y aller, motivé, vous allez pouvoir vraiment vivre et un beau moment de fête. Et Jésus, en fait, il pose une question dans cette histoire de l'évangile de Matthieu. Il pose une question claire aux gens. Il leur dit, quel type d'invité êtes-vous ? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Quel type d'invité êtes-vous ? C'est vraiment intéressant. Vous allez voir, on a plein de choses à découvrir. Normalement, voilà. Le royaume des cieux, là, il parle d'un royaume où Dieu règne. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi ici, c'est Dieu le Père, qu'il prépare des noces pour son fils. C'est sous-entendu. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Donc visiblement, je ne sais pas, mais moi, quand j'invite quelqu'un, enfin si je devais me marier aujourd'hui, ce que je ne ferai pas puisque je le suis déjà, mais si je devais me marier aujourd'hui, la première des choses que je fais, j'envoie mes invitations à mes amis, à ma famille, les plus proches. J'espère que comme ça que vous n'allez pas juste aller au centre-ville à Lille et puis donner ça au SDF. En général, vous invitez les gens qui vous sont chers. D'accord ? Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Je vous l'ai souligné et je l'ai mis en gras, parce que ça, c'est un premier type d'invité. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. » Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, donc ils font un peu comme Bruno, ils posent le truc sur le meuble, sans se soucier, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, ou à son commerce, hein, selon les traductions. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ça, c'est vraiment ceux qui n'ont pas envie d'y aller. Vous savez, ce sont ceux qui prennent l'enveloppe, qui l'arrachent et qui la mettent à la poubelle. Le roi fut irrité. Et je comprends. Il est en train de mettre un paquet d'argent, un paquet de moyens, un paquet d'organisations pour préparer de belles noces parce qu'il aime les gens qu'il a invités. Il dit, j'ai vraiment envie qu'il y soit. Et puis, ils n'en ont que faire de mon habitation. Mais le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et là, les serviteurs s'en vont, non pas chercher ceux qui sont de l'entourage proche du roi, mais que font-ils? Ils vont au centre-ville, à Lille, ils voient des SDF et leur disent, venez! Et ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. On va voir aussi, c'est un type d'invité ça. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? En gros, le gars, il est... je sais pas, mécanicien, il travaille dans le garage auto, il a les mains remplies de cambouis, il a le bleu de travail rempli de graisse, il a eu le culot d'entrer dans la salle des noces alors qu'il y avait un dress code. Ouais, c'est intéressant. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, c'est pour être sûr qu'il ne rentre pas. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Alors on va juste parcourir cette petite histoire et on va essayer de comprendre un peu ce que Dieu veut nous dire à nous. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens ont entendu à l'époque de Jésus, c'est important pour eux, mais ce qui est important, c'est que nous puissions entendre et comprendre ce que Dieu a à nous dire à travers cette histoire. Et comprendre quel type d'invité nous sommes. Après, vous repartirez chez vous avec cette petite enveloppe et vous ferez ce que vous voudrez avec. Cette histoire, explique ce qui se passera au temps de la fin. Le jour où les croyants de tous les temps et du monde entier vont rencontrer le Seigneur. Et il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ces croyants sont considérés comme une épouse et ils vont aller à la rencontre de Jésus qui va revenir comme roi, comme Seigneur et qui va, en quelque sorte, tout va se... c'est un peu ce qui se passe le jour de noces, il va y avoir une communion entre eux et une relation très intime entre ces croyants-là et Jésus. Et ça explique ce jour-là. Et comme pour un mariage de notre monde, le roi prépare ce jour où il envoie des invitations. La question que je me pose ce matin, de quelle manière je réponds à cette invitation? Et alors, il y a d'abord ceux qui rejettent radicalement l'invitation. Vous avez vu dans cette histoire, il y en a qui n'en ont que faire de l'invitation. Ils prennent l'enveloppe, ils jettent l'enveloppe dans la poubelle. Clairement, ils se disent, on n'en a que faire. Il est écrit dans le texte qu'ils ne veulent pas venir à ces noces et certains même tuent les serviteurs. Ils détruisent l'invitation, en quelque sorte. Ce sont les invités rebelles. Et moi, dans ma vie, j'en connais plein des gens comme ça. Souvent, je partage ma foi. Et quand je partage ma foi, il y a des gens, quand je leur parle de ma foi, c'est comme s'ils me répondaient avec, vous savez, pour les plus vieux, vous vous souvenez de Rambo? Ils sortent le gros attirail et ils me tirent dessus. Oh, ça ne me pose pas de problème. Hein. Mais il y a des gens qui sont rebelles à l'invitation du Seigneur. Et c'est souvent lié à la vision qu'ils ont de Dieu à travers les hommes et les relations qu'ils ont eues. Regardez, il y a beaucoup de gens qui sont rebelles parce qu'ils disent ils ont vécu un mariage avant qui n'était pas, si je puis dire, terrible. Peut-être qu'il y a une dispute dans ce mariage. Et ils se disent, tiens, moi je n'y retournerai plus dans un mariage. Et souvent, les personnes rebelles, ce sont des personnes qui rejettent l'invitation de Dieu parce qu'elles ont eu une image de Dieu faussée à travers les relations qu'ils ont eues dans l'Église. Et j'en connais plein des personnes comme ça. Plein. Je connais des gens qui ont eu de telles blessures dans l'Église, ou lorsqu'ils étaient petits, à travers ce qu'ils ont vécu dans la foi avec les autres, qu'aujourd'hui ils sont devenus rebelles. Et vous leur parlez de Dieu, ils vont tout rejeter de Dieu. Parce que quand vous leur parlez de Dieu, vous leur parlez en réalité de la relation ou des situations mal vécues à cette époque-là. Donc ça, ce sont les personnes, si je puis dire, rebelles. Et puis, il y a ceux qui ont d'autres priorités. Ils sont comme Bruno. Ils posent l'invitation sur le meuble et disent « Ah zut, j'ai un entretien pastoral. Oh zut, il faut que je prépare mon message de dimanche. Oh zut, hey, le lave-vaisselle est tombé en panne, chérie. Pour que éviter que je fasse la vaisselle, il faudrait qu'on aille faire un petit achat. » Vous comprenez ? Il y a ceux qui reçoivent l'invitation et ils sont un peu intéressés. Si ça, c'est sympa quand même l'invitation. Mais ils se disent au fond de leur cœur « Mais j'ai d'autres priorités aujourd'hui. » Et là, ce qui est d'extraordinaire, parce que ça s'intéresse pas, ça s'adresse pas uniquement aux gens de la dernière minute que le Seigneur ne connaît pas, mais ça, il est question de personnes qui aussi vivent leur foi dans l'Église aujourd'hui. Et qui se disent, moi j'ai d'autres priorités dans ma vie. Quand je me suis marié, je voulais avoir des enfants, je voulais avoir une maison, je voulais avoir une voiture, je voulais avoir un bon job, je voulais être bien payé, je voulais. Et c'était les priorités de ma vie pendant les 7 premières années de ma vie. Et pendant 7 ans, j'ai recherché à assouvir des besoins fondamentaux. Et pour moi, ces besoins étaient prioritaires. Et je me suis aperçu en réalité que pendant les sept premières années de ma vie de mariage, j'ai cherché à faire toutes ces choses et en réalité, je n'ai jamais connu le bonheur. Au contraire, si vous saviez, si je vous racontais mes 7 premières années de mariage, vous seriez en train de pleurer actuellement parce que vous diriez « Qu'est-ce que cet homme a souffert ? Qu'est-ce qu'il a eu comme difficulté ? Qu'est-ce qu'il était perdu ? Qu'est-ce qu'il était angoissé ?» Et puis, un beau jour, j'ai rencontré le Seigneur. Alors, par une circonstance certes un peu compliquée, que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui, mais j'ai rencontré le Seigneur. Et à ce moment-là, mes priorités ont changé d'orientation. J'avais toujours des priorités d'avoir une maison, d'avoir des choses dans ma vie qui y étaient importantes à mes yeux, mais ma priorité n'était plus cela. Ma priorité était devenue celle de connaître Dieu davantage dans ma vie. Et ça a transformé les choses. Il y a ceux qui ont d'autres priorités. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Ce sont ceux qui sont indifférents. Et au fond de nous-mêmes, dans notre relation avec Dieu, souvent nous sommes indifférents. Je suis sûr qu'ici, il y a des personnes qui vont entendre ce message et qui vont rentrer chez eux et vont reprendre leur cours de leur existence. Alors que lorsque Dieu envoie une invitation, ce n'est pas pour que tu la poses sur ton meuble et qu'elle jaunisse avec le temps, mais c'est pour que tu l'ouvres et que tu découvres tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta vie. S'il vous plaît, lorsque vous allez retourner chez vous, ne fermez pas cette enveloppe. Ne soyez pas indifférent à ce que Dieu vous dit. Je parle aux incroyants, je parle aux personnes qui ne croient pas, mais je parle aussi aux personnes qui ont la foi encore. Parce que nos priorités doivent être celles de Dieu. Nos priorités, c'est de nous préparer à aller rencontrer le Seigneur. Et tous ces invités-là n'entreront pas dans la salle des noces. D'ailleurs, ça met un peu le roi en colère. Le roi se dit, tiens, quand même, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je les ai aimés. Je les aime tellement que j'aurais voulu qu'ils soient là. C'est l'amour de Dieu qui pousse Dieu à inviter les gens à le rejoindre. C'est l'amour de Dieu. Et vous savez, la salle des noces... Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas plus triste qu'un mariage qui est vide. Non ? Avez-vous déjà remarqué ça ? C'est qu'il y ait toutes les tables dressées et puis que, je ne sais pas, on avait prévu 100 personnes et qu'il n'y a que 10 personnes. Quand vous préparez un mariage pour 100 personnes, vous préparez un mariage pour que les 100 personnes soient là. Quand vous préparez quelque chose pour que, par amour pour ces personnes, vous imaginez la blessure. Je ne sais pas si on vous a déjà posé des lapins. Mais ça fait énormément mal au cœur quand on prépare les choses, quand on met en place des choses et puis que les gens ne répondent pas à cet appel. Je vous le dis, les gens qui sont indifférents et les gens qui sont rebelles, malheureusement, n'entrent pas dans la salle des noces. Mais ça, ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'eux-mêmes, on va le voir après. Et puis, il y a les invités de la dernière minute. Si je puis dire, ce sont les invités qui sont rencontrés sur la place, la grande place à Lille, et les serviteurs s'en vont chercher, ils commencent à donner des invitations aux gens qui sont dans les rues, comme ça, qui ne connaissent même pas le roi. Ils vont dans les coins de la rue et ils disent, mais ils voient, mais moi, je suis qui pour être invité? Et ces gens-là, ils se disent, mais c'est extraordinaire, je n'étais pas invité au départ, je ne mérite pas d'aller dans la salle des noces et je reçois une invitation. Ça, ce sont les reconnaissants, ces serviteurs allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie ou pleine de convives. C'est incroyable. Combien Dieu a envie et veut voir sa salle être pleine d'invités. Et puis, il y a les invités indignes. Je vous parle du mécano qui a les mains remplies de cambouis et qui a le bleu sale. Le gars s'est faufilé entre... Tu sais, il y a des gens comme ça qui s'invitent dans les soirées comme ça. Il s'invite, il est passé entre deux convives comme ça, on ne l'a pas vu. Il s'installe, il se met à table, il se met à boire l'apéro, à boire le champagne, il se met à manger. Et puis, il est écrit que le roi entre pour voir et considérer, examiner chaque convive. C'est-à-dire qu'il est en train d'y... Il arrive à un gars, il dit « Ah purée, c'est bien, tu as mis le costume que j'avais demandé. Tu as mis même le nœud papillon de la couleur que j'avais demandé. Tu t'es lavé les mains. Ton visage est propre. Tes chaussures sont neuves. Il n'y a pas de boue. Ce que tu es correspond à ce que j'avais demandé. » Moi, je sais que quand... Mes enfants se sont mariés, enfin mes premiers enfants, enfin Geoffrey et Pauline se sont mariés, il y avait un dress code et j'ai appliqué le dress code. Je ne m'imaginais pas à un moment donné m'habiller, tiens, je vais mettre la couleur que je veux, quoi. Ou je vais y aller en jean. Non mais vous comprenez ça. Et là, ce sont des gens qui pensent entrer, rester, participer, en ne changeant rien dans leur vie, en continuant de faire ce qu'ils ont décidé de faire. Et ça, il y a plein de gens comme ça. Clairement, quand j'entre dans le royaume, les gens qui arrivent en France ici, doivent se plier à la loi française. Moi, je me souviens, lorsque j'ai voyagé aux États-Unis l'année dernière, j'avais intérêt de me plier à la loi américaine. Lorsque je vais en Belgique, je me plie à la loi belge. Exemple, s'il est marqué sur le panneau, ne te sens pas visé, Geoffrey. S'il est marqué 90 et que je roule à 100, je vais avoir le petit papier belge. Et je vais devoir payer. Vous comprenez ça? Et il y a des gens qui comprennent pas que être invité impose une règle, impose une réglementation, impose quelque chose qui est important de suivre. Parce que si je ne fais pas cela, je risque, comme il est écrit, cet homme eut la bouche fermée. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune excuse. Il avait beau dire, il aurait pu essayer de dire, ouais, tu comprends, j'ai pas eu le temps de me laver mes mains, je suis mécano, j'ai réparé la voiture du voisin avant de venir. Non! Tes mains sont sales! Tes pieds sont sales! Ton bleu est rempli de cambouis! Il faut que ça change! Et cet homme a l'incapacité de répondre à ça. Parce que le jour où nous serons devant le Seigneur, il ne faut pas croire. On n'aura pas la possibilité de se défendre ou de se trouver des excuses. Parce que avant d'en entrer dans les salles, dans la salle des noces, il va falloir changer d'habit. Et des gens pensent, et ils s'imaginent un instant qu'ils vont pouvoir vivre et vivre pour l'éternité avec le Seigneur sans avoir réglé des choses dans leur vie avant. C'est pas possible. C'est contraire à ce que dit l'Évangile. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains pour être sûr qu'il ne revienne pas et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur les ténèbres du dehors et les pleurs et les grincements de dents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la salle des noces, il y a quoi en général? De la lumière. C'est super bien éclairé, super bien décoré et en général, c'est bien chauffé. Enfin, j'espère pour vous, si vous allez au mariage. Et il y a de la joie et des rires. Et vous voyez la comparaison entre la salle des noces et le dehors. Dehors, il y a des pleurs, des grincements de dents. Et il y a des ténèbres. Les projecteurs de la salle n'éclairent pas à l'extérieur. Et les gens sont perdus à l'extérieur. Et ne savent pas où ils vont. Ils ont froid. Ils pleurent. Et ils grincent des dents. Des fois, on peut grincer des dents de souffrance intérieure. Vous savez qu'il y a des gens qui grincent des dents la nuit. Pourquoi? Parce que ils sont dans leur sommeil, ils sont encore sous pression. Ils ont encore des difficultés personnelles. Ils grincent des dents parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils s'angoissent. Vous connaissez pas des gens comme ça? Moi, j'en connais plein. Et je leur dis à ces gens, si ces gens pouvaient à un moment donné se retrouver dans la salle des noces et arrêter de grincer des dents. Et parfois, il y a des grincements de dents. Oui, il y a la souffrance. Mais il y a aussi de la peine, de la tristesse et du regret. Ah, si j'avais pu répondre à l'invitation. Ah, si j'avais pu m'habiller correctement. Ah, si j'avais pu mettre le costume qui correspond au code. Ce sont les invités qui n'ont pas compris les règles et les valeurs du royaume de Dieu. Alors qui donc entrera? Qui va donc entrer dans la salle des noces? Jésus a dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On vient de prier pour Amy. Ce qui me frappe, moi, souvent, et ça m'a beaucoup interpellé en tant que père, c'est que jusqu'à l'âge de 10-11 ans, jusqu'au collège, je pouvais leur dire tout ce que je voulais, ils croyaient ce que je disais. Le passage au collège, ça change, on n'est plus la référence. Hein. Mais je pouvais leur dire tout. La foi est née dans le cœur de mes enfants avant cet âge-là. Parce qu'ils avaient un cœur d'enfant, parce qu'ils étaient comme des petits-enfants, parce qu'ils étaient simples comme des enfants. Si vous ne vous convertissez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que ce qui t'empêche de changer de direction, se convertir en fait, c'est de dire, voilà, ben aujourd'hui j'ai ma vie ou j'ai mes priorités par exemple. Et voilà, j'ai mes priorités et je marche vers mes priorités. Je vais avoir un bon job, je vais avoir un bon boulot, je vais avoir une belle maison, je vais avoir de beaux enfants, je vais avoir une belle famille, je vais avoir. Et puis à un moment donné, tu entends la voix de Dieu et tu te dis, stop. Se convertir, c'est te dire, aujourd'hui, mes priorités vont changer. Aujourd'hui, mes priorités, c'est ma relation avec Dieu. C'est de vivre pour Dieu, c'est de vivre avec Dieu. Si vous saviez, j'ai partagé mon témoignage dernièrement à un couple de cette église et je leur expliquais ceci. On était plusieurs couples qui marchions ensemble dans la même direction il y a environ une trentaine d'années. Oula, ça va vite. Il y a environ 30 ans. On marchait tous comme ça. On était à peu près une quinzaine de couples, sûr. On marchait. Et notre but était tous le même. où nous voulions un bon job. On voulait continuer de se voir le samedi, prendre des bonnes cuites, boire beaucoup de bière. C'était l'amitié, c'était vraiment important. Mes potes, c'était pour moi, demander à mon épouse, c'était pour moi ma vie, mes amis. C'était quelque chose d'important. Et je voulais une maison. Et très vite, on a acheté une maison. Tous ont tous acheté une maison. Et on a tous quasiment eu des enfants assez rapidement. Sur les 15, je donne 15 au hasard parce que il faudrait que je recompte. Vous savez, aujourd'hui, dans tous ceux qui ont, de mes 15 amis, 15 couples d'amis, un seul couple a répondu à l'appel de Dieu, a répondu à l'invitation, mon épouse et moi. Je peux vous dire, en toute honnêteté et en toute vérité, que ce que nous avons construit avec Dieu a été solide. Les tempêtes sont venues sur notre vie et notre couple a tenu le coup. Sur tous les autres couples, vous savez combien de couples sont encore mariés aujourd'hui ? Un seul. Un seul est tenu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si tu ne changes pas, si tu ne te convertis pas, si tu n'attrapes pas une mentalité que tu devrais avoir, d'accepter tout simplement que Dieu t'aime et que Dieu veut vivre avec toi, tu dois avoir un cœur d'enfant, l'accepter comme un enfant. Arrête de réfléchir, arrête de te dire « Ouais, mais je vais devoir en supprimer mes soirées binouzes et je ne pourrai plus boire de bière, etc. etc. » La priorité, c'est Dieu. Et quand tu comprends ça, tu comprends que tu bâtis ta maison sur le roc. Si un homme ne naît de nouveau, alors qui entrera et demeurera ? Parce que le patou, ce n'est pas d'entrer, d'en ressortir et de se faire virer. Non, mais que les choses soient claires. Parce qu'on peut entrer et se faire sortir parce qu'on n'a pas la bonne tenue. Celui qui entre et qui demeure. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je veux dire, mais quel est mon passe-droit ? Quelle est ma carte d'entrée en VIP dans la salle ? C'est Jésus ! C'est-à-dire que lorsque tu reçois le Seigneur dans ton cœur, il y a quelque chose que Dieu fait, c'est qu'il met en toi quelque chose qui est indélébile. Entendez bien ça, indélébile. C'est comme si, en expliquant les choses, il y a quelque chose qui était gravé sur ton front. La marque de Dieu sur ton front. Il est marqué Bruno, fils de Dieu. Il a reçu Jésus dans son cœur. Autrement dit, quand j'entre dans la salle des noces, le roi, enfin les videurs, si je puis dire, à l'entrée de la salle, ils disent « Oui, il est réellement invité ». Si un homme ne naît de nouveau, si cet homme ne reçoit pas la marque, le Saint-Esprit en lui, voilà ce qui est écrit, il ne peut entrer dans le royaume. Jésus dit à un jeune homme riche, et un jeune homme riche qui dit « Moi, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai fait ça, j'ai accompli tous les commandements. » Jésus lui dit « C'est parfait, c'est bien, mais pour être parfait, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et Jésus ajoute, forcément, le jeune homme riche, et il repart tout penaud, tout triste, la tête en bas. Il dit « Oh, je dois vendre tout ce que je possède et suivre Jésus. » Il me demande trop. Ce qui ne veut pas dire que Dieu a quelque chose contre les riches. Mais il y a des choses qui sont notre richesse. C'est peut-être ton compte en banque, je te l'accorde. Mais il y a des choses dans ta vie qui sont plus riches pour toi que Dieu. Et parfois dans nos vies, on a fait de nos vies des points de nos vies, des richesses qui nous empêchent vraiment de suivre le Seigneur. Qu'est-ce que tu dois lâcher ? Qu'est-ce que tu dois vendre ce matin pour le suivre ? Et je parle à tout le monde là, et je parle à moi-même. Je dois examiner dans ma vie, vends tout ce que tu as. Parfois, celui qui aura lâché tout ce qui l'empêche d'entrer, c'est celui-là qui entrera. Vous savez, il y a des fois des gens dans la vie, ne serait-ce qu'une relation familiale ou une relation amicale. Quelqu'un m'a dit une fois, c'est une personne qui s'était approchée du Seigneur, c'était une femme. Et puis, elle avait vraiment vécu une expérience avec le Seigneur. Vraiment, elle avait compris qu'elle avait besoin d'être pardonnée de ses péchés. Elle avait compris que Jésus voulait la laver, changer ses habits sales. Elle avait tout compris. Puis un beau jour, elle est revenue nous voir et elle m'a dit ceci. J'ai trop peur de décevoir ma grand-mère. Aujourd'hui, cette personne a fait une expérience, mais elle est restée dehors. Vous savez pourquoi ? Parce que sa richesse, c'était de ne pas décevoir sa grand-mère. Parce que sa grand-mère était catholique. Alors que nous, et je peux vous le dire, je n'ai jamais témoigné d'une religion. Vous, jamais vous ne m'entendrez parler d'une religion. Nous, les protestants, ceci, nous, les protestants. Non. Nous, les évangéliques, ceci, je ne dis jamais ça. À chaque fois qu'une personne me parle, elle me dit « Pourquoi tu crois ?» Je lui présente toujours le Christ, Jésus. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher ? Qu'est-ce que tu as besoin de vendre pour véritablement répondre à l'invitation ? Et ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ah tiens, c'est intéressant. On a chanté ce matin, Seigneur, tu es grand. Je ne sais pas, vous avez tous chanté ? Quels sont ceux qui n'ont pas chanté ce matin ? Non, je plaisante. On a tous chanté Seigneur. Et on dit toujours Seigneur. Et je peux même vous dire que même si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans une église, vous l'avez fait ou un jour vous allez le faire. Parce que le jour où tu es confronté à un moment grave de ta vie, tu cries à Dieu. Même les hommes les plus athées, je crois que c'est Darwin qui remettait en cause l'existence de Dieu, qui à la fin de sa vie, alors qu'il était dans la souffrance, vous savez ce qu'il a dit ? Et si Dieu existait ? Tout homme pense dire « je n'ai pas besoin de Dieu ». Tout homme peut dire « je n'ai pas besoin d'être sauvé ». Moi je suis parfait, j'irai au paradis, on est tous des Michel Polnareff, on ira tous au paradis. Il y a des gens comme ça qui pensent que... Et pourtant, ceux qui font la volonté de Dieu entrent dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des gens qui proclament « Seigneur, Seigneur ». Vous savez, il y a des « Seigneur, Seigneur » qui ne dépassent pas le plafond des maisons. Mais celui qui dit « Seigneur, Seigneur » et qui voit ce qui est marqué dans la parole de Dieu, dans la Bible, et qui se met à appliquer ce que Dieu dit dans sa parole, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Jeudi dernier, nous sommes allés voir un ami qui est à l'hôpital. Il est gravement malade, mais on a la foi qu'il va guérir. On lui a fait une greffe de moelle osseuse, et donc il est en chambre stérile. Il fait une expérience avec le Seigneur qui est extraordinaire. Il apprend l'abandon. Les gens qui ont des graves maladies vous diront ça, qu'ils sont obligés d'apprendre à s'abandonner. Entre les mains des médecins, et c'est mieux aussi quand il y a le Seigneur. Et quand nous sommes ressortis, parce que forcément c'était férié, et on s'était pris une journée de repos avec mon épouse, on a la vie qui est bien remplie, et en sortant, pour y aller, c'était assez difficile parce qu'il faut sortir de son confort, il faut aller jusqu'au CHR, il faut aller. Parce que c'est tout un système quand on est en chambre stérile, hein, il y a plein de choses à faire. Et puis à la sortie, quand j'ai vu le bonheur que cet homme avait, qu'on l'a visité, et puis en plus, qu'on avait prié avec lui, à la sortie, il y a ce verset qui dit : lorsque j'étais. « Malade, vous m'avez visité. » Vous savez, la foi, ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, mais c'est quelque chose de pratique. Quand Jésus est en train de dire, celui qui dit « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas forcément qu'il va rentrer dans le royaume, parce que sa foi va rester une foi sans rien faire. Des « Seigneur, Seigneur », il n'y en a que faire. Mais si tu dis « Seigneur, Seigneur » et que tu te mets à faire ce que Dieu te demande, à savoir donner ta vie pour les autres, abandonner quelque chose, ton petit confort personnel, Ça, c'est la vraie religion, si je puis dire. Ça, c'est ce que Dieu demande. Il y a plein de gens qui vont dans les églises, qui passent leur vie à venir le dimanche matin dans les églises, mais Dieu n'en a que faire que vous veniez le dimanche matin. Au risque de vous surprendre, ce que Dieu veut, c'est que la manifestation de ce que vous vivez le dimanche soit transposée dans votre vie de tous les jours. Au boulot, qu'est-ce que tu fais au boulot pour ton prochain ? Qu'est-ce que tu fais pour tes voisins ? Qu'est-ce que tu fais pour les gens qui sont malades ? Qu'est-ce que tu fais pour les gens qui sont en prison ? Qu'est-ce que tu fais pour les gens qui sont persécutés ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà ce que Jésus est en train de dire. Et c'est pourquoi on aura la bouche fermée, parce qu'on dira, mais moi, tous les dimanches matin, Seigneur, j'ai dit Seigneur, Seigneur. Ou au pire, quand ça n'allait pas, j'ai prié, Seigneur, souviens-toi, j'étais malade, ou mon enfant était malade, ou j'étais en train de, je sais pas, de vivre un temps difficile. Souviens-toi, j'ai dit Seigneur, Seigneur. Et Jésus répondra, je ne te connais pas. Parce que ta vie n'a pas été en correspondance avec ce que je t'ai demandé, tout simplement. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est ce que dit la fin de l'histoire. Et moi, j'ai eu un problème avec ce passage pendant des années, et je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Donc permettez-moi de vous partager quelque chose que je viens de comprendre. Voilà. Cette histoire montre clairement que Dieu veut remplir sa salle des noces. Si vous saviez combien Dieu nous aime, et combien il veut que nous puissions nous réjouir ce jour-là avec lui. La salle fut remplie et fut pleine de convives. En gros, on était tous serrés, on sera tous serrés les uns contre les autres. Il n'y aura plus besoin de chauffage. Chaleur humaine, chaleur pas chère. Et le Seigneur appelle tous les hommes à répondre à son invitation. Tous les hommes. Il y a beaucoup d'appelés. En réalité, tous sont appelés. Et je ne commence pas à faire une étude théologique sur la prédestination, hein. Ça, j'en ai que faire de la théologie. Mais là, ce passage nous montre une chose, c'est que dans le cœur du roi, il y a un désir de nous amener tous dans la salle des noces. Autrement dit, tous autant que nous sommes, du petit jusqu'au plus grand, la petite fille, là, en passant par les nouveau-nés, même, je ne sais pas s'il y a des femmes enceintes, mais là, tous sont appelés à aller dans la salle des noces. Il ne fait pas de différence. C'est pourquoi Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés. Mais en réalité, Dieu est en train de vous envoyer une invitation ce matin. Ce que tu crois, que tu ne crois pas, il envoie une invitation. Il a dit, je voudrais que tu entres avec moi dans la salle. Je voudrais que tu te réjouisses avec moi dans la salle. Je voudrais vraiment que tu sois celui qui soit à côté de moi et qu'on puisse boire un verre ensemble. Et croyez-moi, le champagne sera bon. Malheureusement, les hommes ne répondent pas tous à l'invitation. Et ils sont responsables de leur non-élection. Jésus dira, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. La non-élection, si je puis dire, ta non-présence dans la salle ne dépend qu'une d'une chose. De la manière dont tu prends l'enveloppe. Est-ce que tu l'ouvres ? Est-ce que tu vas l'ouvrir ce matin ? Est-ce que tu vas la poser ? Il y a des gens qui remettent tout le temps au lendemain les choses. Tu peux la poser là. Et tu vas passer tous les jours en face. Oh, de temps en temps, même tu vas l'oublier parce qu'elle fera partie des meubles. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Il y a des gens qui rangent comme ça, puis à bouger. Oh, tiens, il y a ça. Et puis il y a des gens qui font. J'en ai que faire. Comment tu prends les choses ? Quel est, ça vous fait rire. Il faut que j'aille la récupérer maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette invitation? Il y a beaucoup d'appelés, tous, mais ta présence dans la salle des noces ne dépend que de toi. Que de toi. Ça ne dépend même pas de moi, et c'est mieux pour autant. Ce jour a un poids sur les épaules tout le temps. Ça dépend du choix que tu fais d'ouvrir ton enveloppe. Eh oui, c'est fini. Ben, ça ne fait que commencer pour ceux qui ouvriront l'enveloppe.